poursuit notre étude de l'histoire des débuts du mouvement de Pentecôte en France. Peut-être qu'avant de revenir sur cette question, je voudrais simplement revenir un peu sur l'histoire du Pernic, simplement pour évoquer un détail que j'ai oublié de mentionner, c'est que M. Nic était aussi un homme qui était très ouvert à l'œcuménisme, à l'époque où c'était pas tellement courant. Et notamment, il avait eu des contacts extrêmement étroits avec le cardinal Liénard, qui était cardinal de Lille à cette période-là, des contacts très suivis avec lui. Et il a réussi à persuader le cardinal Liénard de publier, ou plutôt de diffuser la Bible parmi les catholiques. Et le cardinal Liénard, donc, a publié une édition de la Bible qui porte son nom, d'ailleurs, la Bible du cardinal Liénard, qui était une traduction de l'abbé Crampon. Donc, c'était en quelque sorte, l'abbé Crampon s'était inspiré de la traduction Second pour traduire la Bible. Et c'est cette Bible, donc, qui a été diffusée sur le conseil de M. Nic. M. Nic a été derrière cette diffusion de la Bible, évidemment, qui a eu une diffusion quand même relativement limitée, parce que même encore à l'heure actuelle, peu de catholiques lisent la Bible, mais enfin, il a fait ce qu'il a pu pour diffuser la Bible. Voilà. Maintenant, revenons à Douglas Scott, si vous voulez, et au début du mouvement de Pentecôte en France. Nous avons vu que le point de départ géographique du mouvement de Pentecôte en France est l'hôtel-restaurant Le Ruban Bleu, au Havre, qui est tenu par une chrétienne engagée qui s'appelle Mademoiselle Biolay, qui est une Suissesse d'origine, et qui recevait donc dans son restaurant, qui était un restaurant sans alcool, des missionnaires qui arrivaient au Havre par bateau et qui se destinaient notamment à l'Afrique. Et c'est ainsi que, par l'intermédiaire de ces missionnaires, Mademoiselle Biolay avait entendu parler du mouvement de Pentecôte. Et en 1920, est arrivé au Havre un homme qui se nommait Félix Galis, qui avait été touché par l'Évangile, c'était un ancien catholique, et qui déjà aussi connaissait le message de la Pentecôte. Et ce monsieur Galis a tellement donné envie à Mademoiselle Biolay d'avoir contact avec le mouvement de Pentecôte que dans le restaurant Le Ruban Bleu, il y a eu des réunions de prière hebdomadaires où l'on priait pour un réveil de la France, et notamment un réveil de type pentecôtiste. En 1919, Mademoiselle Biolay avait elle-même lu un livre sur le pentecôtisme et elle l'avait traduit en français. Quant à Félix Galis, c'était un catholique qui s'était converti par un tract avant la Première Guerre mondiale. Et il avait promis à Dieu que si le Seigneur le gardait, alors qu'il était mobilisé évidemment comme beaucoup de jeunes Français à cette période-là pour participer à la Grande Guerre, il avait promis au Seigneur que si il revenait vivant de la guerre, si le Seigneur le gardait, alors il consacrerait sa vie à son service. Et après la guerre, donc, Dieu lui a rappelé sa promesse, disant « Je t'ai gardé, maintenant à toi de tenir ta part de la promesse ». Alors il s'est mis à prier, il dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ?» Et le Seigneur lui a dit « Va au Havre ». Et c'est ainsi que Félix Galis est arrivé au Havre. Il est arrivé donc au Ruban Bleu, où il a pris une chambre, il était célibataire à cette période-là. Et là, il s'est rendu compte qu'on priait, qu'on étudiait la Bible, et que l'on priait notamment pour un réveil. Félix Galis s'est mis à travailler avec les baptistes, il était en liaison donc avec les églises baptistes françaises. Et puis, il y a eu aussi un autre pionnier du mouvement de Pentecôte français, qui n'était pas français d'ailleurs, c'était un Roumain, qui s'appelait Christo Domouchev. Il avait travaillé en Bulgarie, il avait pas mal roulé sa bosse dans le monde, il avait été à Rome, puis finalement à Paris. Et il avait atterri au Havre avec l'intention d'aller plus loin, où il s'était converti. Et là, il avait émis le désir de servir le Seigneur, il avait senti un appel pour servir Dieu. En 1928, sur les conseils de Mademoiselle Biolay, il avait décidé de se rendre à Londres pour se former au service de Dieu. Il est arrivé donc à l'école biblique récemment créée des Assemblées de Dieu d'Angleterre, en Bretagne très exactement, dont à cette époque-là, Howard Carter était le directeur. Et c'est là que Christo de Moutchef a fait la connaissance d'un jeune homme, un jeune étudiant comme lui, qui s'appelait Douglas Scott. Après son temps d'études, 2 ans d'études qu'il a passé donc au collège biblique, Christo de Moutchef est resté en Grande-Bretagne où il est devenu pasteur. Et il est resté pasteur en Angleterre jusqu'au moment où Douglas Scott lui a demandé de revenir en France. Un troisième pionnier du mouvement de Pentecôte français est notre cher frère Offalg, jeune Danois, qui est arrivé à Paris en 1925. Il était totalement inconverti, il était d'origine luthérienne, mais il n'avait strictement aucune dimension spirituelle. Il était venu à Paris pour faire la vie, disons. Et là, un beau jour, il a rencontré des jeunes chrétiens qui l'ont conduit vers Thomas Roberts. Et c'est là qu'il a entendu parler de l'Évangile pour la première fois et aussi du message de Pentecôte. Mais Ove Falg s'est aussi converti chez les baptistes dans l'église baptiste du Tabernacle à Paris. En cela, d'ailleurs, il ressemblait beaucoup à Félix Gallis. Dès sa conversion, Ove Falg a senti l'appel de Dieu et il s'est aussi rendu dans une école biblique en Grande-Bretagne pour se former. Donc, même cheminement que celui de Christo de Moutchef. Mais au lieu d'aller dans l'école biblique des Assemblées de Dieu, il est allé dans une école biblique qui était tenue par une église qui avait eu des problèmes avec l'Assemblée de Dieu. On verra ça quand on étudiera l'histoire du mouvement de Pentecôte en Grande-Bretagne, qui s'appelait les églises d'Ilim, dont George Jeffreys était à l'époque le principal. Et c'est là que Ove Falg a senti l'appel pour la France. Il a senti que le Seigneur l'appelait à le servir en France. Et c'est ainsi qu'il est arrivé en France en novembre. Il est revenu en France, venant d'Angleterre, donc en novembre 1930, au Havre, où il a rencontré Douglas Scott, et c'est là qu'il a commencé à le seconder dans l'œuvre. Mais outre ces 3 hommes qui vont jouer un rôle clé donc, dans l'histoire du mouvement de Pentecôte, Félix Gallis, Christo de Moutchef et Ove Falg, le véritable apôtre du mouvement de Pentecôte en France sera Douglas Scott. Douglas Scott est né en 1900 dans l'Essex, en Angleterre. Il est mort en 1966, terrassé par une crise cardiaque en pleine prédication à Chalon-sur-Saône. C'est une belle mort pour un pasteur. Ses parents étaient anglicans, mais sa mère s'est détachée très vite de l'église anglicane pour se joindre à une église congrégationaliste. Ses parents n'étaient pas très pieux, même sa mère congrégationaliste. Et l'éducation religieuse du jeune Douglas Scott a été très moyenne, disons, très moyenne, tout à fait traditionnaliste, sans plus. Pendant la Première Guerre mondiale, il a été mobilisé et il a servi d'interprète dans l'armée britannique. Et là, de son propre aveu, il a vécu une vie de péché, une vie de débauche pendant le temps où il a été à l'armée. C'était un violoniste extrêmement doué. Et il jouait dans les dancing, dans les soirées sportives. C'était aussi un grand sportif lui-même. Il aimait beaucoup la course à pied, en particulier le foot. Et c'est ainsi que dans un match de foot, un jour, il a été blessé, il a failli mourir, et attrapé une septicémie. Et bon, il s'en est sorti quasi miraculeusement. Et c'est ainsi qu'en 1923, au sortir de cette grave épreuve, un jeune de l'église congrégationaliste que fréquentait sa mère l'a interpellé en ces termes, lui disant « Es-tu sauvé ?» C'est une question qu'il ne s'était jamais posée. Il a écarté cette question et 2 ans plus tard, une deuxième fois, il a eu l'occasion d'entendre cet appel lors d'une réunion en plein air au cours de laquelle il s'est converti. C'était en août 1925. Et là, immédiatement, Dieu lui a montré que, comme conséquence de sa conversion, il devait abandonner la musique et le sport pour se consacrer à lui. Il a tout de suite compris qu'il devait chercher à se rattacher à une église fidèle, et il s'est mis à chercher donc une telle église. Et c'est ainsi que, par hasard, il est entré dans une église pentecôtiste, dans laquelle George Jeffreys était en train de prêcher. Il a été immédiatement saisi par le feu, n'est-ce pas, qu'il y avait dans la prédication de George Jeffreys, qui était un apôtre de la Pentecôte extraordinaire. Et c'est ainsi qu'il s'est mis à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, qu'il a reçu peu de temps après. Et là, il s'est mis au service de Dieu, sans avoir d'ailleurs une idée très précise de ce que le Seigneur allait attendre de lui. Il s'est mis spontanément à servir le Seigneur, sans aucune préparation, sans aucune formation. C'est-à-dire qu'il s'est mis à faire ce qu'on faisait beaucoup à cette époque-là dans les milieux pentecôtistes en Angleterre. Il s'est mis à prêcher dans les réunions en plein air, à distribuer des tracts. Et puis là, il a repris son violon. Il jouait en plein air, dans les réunions de plein air. Il jouait, il accompagnait les cantiques au violon. Quand il a eu accumulé un peu d'argent, il travaillait évidemment, mais toutes ses économies, il a fait des économies. Et avec l'argent, il s'est mis à acheter des chaises, une tente, et là, avec cette tente et ces chaises qu'il avait achetées, il est parti un peu au hasard, évangéliser partout où il en avait l'occasion. Et très vite, il s'est avéré que Douglas Scott avait un don d'évangéliste hors pair. On ne peut pas dire qu'à cette époque-là, des foules encore se convertissaient à sa prédication, mais enfin, bon nombre de gens étaient touchés, saisis par sa prédication. C'est ainsi qu'il s'est formé au service de Dieu. C'est l'occasion qu'il a rencontré Ove Fall, que nous l'avons vu tout à l'heure, Christophe de Moutchef, et qu'il a, à la suite de sa formation, il a fondé une église où il s'est mis à travailler. Puis, il a senti l'appel de Dieu pour la mission. Et après avoir prié, « Seigneur, où me demandes-tu d'aller ?», il a eu la conviction que le Seigneur lui demandait d'aller au Congo. Le Congo, à cette époque-là, il y avait deux Congos. Il y avait ce qu'on appelait le Congo Brazzaville, qui était sous domination française, qui était colonie française, et le Congo Léopoldville, qui est maintenant le Congo, enfin je ne sais plus d'ailleurs, c'est plus le Zaïre maintenant, ça a nouveau changé, je crois, c'est nouveau le Congo. Ouais, quelque chose, c'est possible, quelque chose comme ça. Enfin, on appelait ça le Congo Léopoldville à cette époque-là. Que ce soit pour l'un comme pour l'autre, il n'était pas très fixé, on y parlait français. Et ça, c'était son problème. Ça veut dire qu'avant d'aller prêcher l'évangile au Congo, il fallait qu'il apprenne le français. Il a donc décidé de se rendre en France pour y faire un séjour linguistique et pour y apprendre le français. Dans son idée, dans son esprit, son séjour en France était une étape en direction de l'Afrique et notamment en direction du Congo. Et c'est ainsi qu'il s'est rendu dès les vacances d'été 1927 au Havre, pour commencer justement à apprendre le français. Alors évidemment, comme beaucoup de missionnaires l'avons vu, il est descendu chez Mademoiselle Biolay au ruban bleu. Et là, Mademoiselle Biolay s'est tout de suite rendu compte que ce jeune homme avait un don particulier pour l'évangélisation. Elle l'a fait prêcher, avec traduction, à cette époque-là, il ne parlait pas le français. Et il a donc décidé, sur les conseils de Mademoiselle Biolay, qu'il allait rester 6 mois en France avant de se rendre au Congo. Et c'est alors que, au bout de ces 6 mois, il est rentré donc en Angleterre. Et là, à l'occasion d'une réunion absolument mémorable, Howard Carter, qui était le directeur de l'école biblique, s'est mis à prophétiser, plus exactement à donner une interprétation d'un parler en langue qui avait été donnée en arabe parfait. Et l'interprétation de ce parler en langue, qui a été vérifiée par un spécialiste de l'arabe qui se trouvait là, c'est pas qu'il s'est d'ailleurs converti, c'était une prophétie pour Douglas Scott, lui disant que le Seigneur l'appelait en fin de compte pour la France. Et dans le lendemain exactement de cette prophétie mémorable, Douglas Scott recevait une lettre de Mademoiselle Biolay qui lui disait à peu près ceci, qu'après avoir longuement prié, cherché la face de Dieu, Mademoiselle Biolay avait la conviction que Douglas Scott était appelé pour la France. Donc il y avait eu la veille la prophétie de Howard Carter et le lendemain la lettre de Mademoiselle Biolay qui venait pour confirmer justement ce que Howard Carter avait dit la veille dans sa prophétie, sans bien entendu savoir du tout que Mademoiselle Biolay, de son côté, avait obtenu la même conviction. Douglas Scott a donc décidé de se rendre en France. Entre-temps, il s'était fiancé avec une jeune fille qui s'appelait Clarice Weston, qu'il a épousée en juillet 1929. Et lors de la cérémonie nuptiale, il y a eu une prophétie, lui disant qu'il était confirmant qu'ils étaient appelés, le jeune couple était appelé pour la France, et disant qu'en France, disons ceci, vous allez passer par des épreuves douloureuses, tant physiques que morales, mais Dieu vous gardera. Et c'est ainsi que le 1er janvier 1930, les Scott arrivaient au Havre. Et on peut dire que c'est de là que commence l'histoire du mouvement de Pentecôte en France proprement dit. Les Scots se sont mis à évangéliser le Havre d'abord, bien entendu. Le but de Scott, c'était tout d'abord de réveiller les églises protestantes françaises et non de créer une nouvelle dénomination. Mais il est certain que Douglas Scott ne considérait pas que l'Église catholique était une Église fidèle à la parole de Dieu. Et il n'a jamais caché que pour lui, un catholique qui se convertissait à Jésus-Christ se devait de quitter l'Église catholique. Et il n'a cessé pendant toute sa carrière d'encourager les catholiques à quitter leur Église. De telle sorte que 90% des membres du mouvement de Pentecôte français sont d'anciens catholiques. Douglas Scott avait un certain nombre de slogans qu'il aimait répéter. Celui qu'il affectionnait par-dessus tous était celui-ci, « Le temps des miracles n'est pas passé ». Scott a commencé à prêcher au ruban bleu, et très vite, les foules ont commencé à affluer parce que Scott s'est révélé avoir un don de guérison peu commun. Et très vite, la nouvelle qu'il se passait des choses extraordinaires au ruban bleu s'est répandue comme une traînée de poudre dans la ville du Havre, et les malades de toutes sortes ont afflué au ruban bleu. Très vite, la salle qui servait en même temps de salle de café sans alcool, etc., est devenue trop petite, de telle sorte que Scott a dû louer un local plus grand pour y tenir ses réunions. Il n'y avait absolument pas besoin de la moindre publicité. La publicité se faisait d'elle-même. Les gens arrivaient 3 heures avant la réunion, très vite, le nouveau local qu'il avait loué se révélait trop petit. Il y a eu une formidable opposition de la part du clergé catholique, ce qui a été la meilleure de toutes les publicités. Les curés mettaient en garde tous leurs fidèles du haut de la chaire dans leurs églises. C'était suffisant pour que tous ces derniers courent se précipiter, n'est-ce pas, aux réunions de Scott. C'était absolument extraordinaire. Les problèmes avec les communistes ont été autres. Le Havre était toujours une ville rouge, profondément marquée par le communisme. Communisme, à cette époque-là, pur et dur, on était dans les années 30, donc. Alors, le lieu de culte lui-même et des chrétiens ont été molestés par des communistes qui sont venus chez eux, les frapper, les brutaliser à la sortie des réunions, ou même des lieux de culte ont été saccagés, etc. Ça, c'était quelque chose de plus embêtant. Mais malgré cela, donc, le réveil continuait. Alors, devant cette situation, les autorités catholiques ont menacé d'excommunication, vous voyez, on n'allait pas de main morte à cette époque-là, ont menacé d'excommunication tous les catholiques qui participeraient aux réunions de Scott. Peine perdue, les foules continuaient à affluer, de telle sorte que la fin de 1930, il y avait au Havre de quoi former une première église, la première église de Pentecôte de France. Et c'est ainsi que, la fin de l'année 1930, Félix Galis est devenu le premier pasteur de l'Assemblée de Dieu du Havre, qui n'a cessé de grandir. Et en 1932, la nouvelle salle était elle-même trop petite. Il a fallu louer un nouveau local, qui était un ancien entrepôt à vin, qui se trouvait situé rue Franklin, si certains connaissent. Et bientôt, c'est en 1932, il y avait là 500 personnes qui se rassemblaient plusieurs fois par semaine, donc pour le culte et pour les réunions. Alors, le réveil continuait dans le Havre et dans les environs, de telle sorte que la nouvelle église aussi était trop petite. Et c'est alors que Douglas Scott a demandé à Christo Domouchev de quitter l'Angleterre et de venir le seconder au Havre, où il croulait sous la tâche, bien qu'ayant étant secondé déjà par Félix Gallis. Et c'est ainsi que donc, en 1933, Christo Domouchev est arrivé en France, et il a ouvert une deuxième église à Frileuse, qui est un quartier du Havre, ça doit être ça, je ne connais pas, non. En très peu de temps, en 1935, donc 2 ans après, il y avait là 300 chrétiens baptisés, sans compter tous ceux qui venaient aux réunions en plus. De là, le réveil s'est répandu dans toute la Normandie, notamment à Honfleur, à Lisieux, où est devenu pasteur un certain Oscar Guillaume, qui était aussi parmi ceux qui ont été les premiers convertis. Et puis, le message de la Pentecôte a atteint les églises baptistes du nord de la France. Et souvenons-nous que Douglas Scott avait pour but non pas de créer un nouveau mouvement, et là, bon, il s'était trouvé devant une situation telle au Havre qu'il avait bien fallu, ne pouvait pas laisser ces gens qui avaient cru dans la nature, donc automatiquement, il s'est occupé d'eux, il a créé des églises, mais ce n'était pas son but premier. Et lorsque il a entendu parler de l'intérêt des églises baptistes du Nord pour le message de la Pentecôte, il a été tout à fait réjoui. C'était notamment à Chauny, n'est-ce pas, que Douglas Scott a été invité, donc des chrétiens baptistes étaient venus voir d'abord ce qui se passait au Havre, ils avaient été enthousiasmés, et donc ils avaient demandé à leur pasteur d'inviter Douglas Scott. Ainsi, Douglas Scott, en 1930 déjà, a fait une tournée dans les églises baptistes de Chauny, de La Fère, de Laon, de Noyon et de Roubaix. Le pasteur de Chauny était à cette époque-là Pierre Nicole, et il y avait aussi donc Oscar Guillaume, qui était pasteur de ces églises-là, et qui ont été absolument enthousiasmés par le message de Douglas Scott, qui l'ont reçu à bras ouverts. Eux-mêmes ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Pierre Nicole avait plus de 50 ans à cette période-là, et là, après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il a décidé de quitter les églises baptistes, de démissionner de son poste de pasteur de Chauny et d'aller seconder Douglas Scott en Normandie. Et donc, il a fait ce pas de la foi, parce qu'à cette époque-là, le mouvement de Pentecôte était très nombreux, enfin déjà très nombreux, mais enfin, c'était l'aventure totale, il n'y avait pas de salaire assuré, on vivait par la foi. Il a été suivi par Oscar Guillaume donc aussi a quitté les églises baptistes, il est devenu, nous l'avons vu, pasteur à Lisieux, et Pierre Nicole est devenu pasteur de la nouvelle église de Rouen. Pierre Nicole a été une véritable bénédiction pour le mouvement de Pentecôte. C'était un pasteur baptiste d'âge mûr déjà, mais qui avait une solide formation biblique, qui avait une solide expérience pastorale, puisque donc il avait déjà plusieurs dizaines d'années de ministère derrière lui, et il a pu apporter au mouvement de Pentecôte naissant, n'est-ce pas, une stabilité doctrinale, pastorale, de sagesse qui lui manquait. Et c'est ce qui a pu donner au mouvement de Pentecôte en Normandie, notamment, une assise considérable. Il est fort regrettable qu'il n'y ait pas eu, dans le mouvement de Pentecôte, 3 ou 4 Pierre Nicole qui se soient levés aussi, que Pierre Nicole ait été un petit peu le seul de son espèce. Il aurait fallu quelques pasteurs qui venaient du protestantisme proprement dit. Il y en a eu quelques-uns aussi dans le sud de la France, on aura l'occasion de le voir. Mais enfin, pas assez pour donner au mouvement une véritable assise. Il y a eu aussi ensuite un certain Moïse Guillaume, qui lui alors n'était pas pasteur, mais était un retraité de la SNCF et qui se trouvait donc desservant comme ancien de l'église baptiste de Liévin, de deux églises baptistes, celle de Liévin et de Lens. Pardon, je me suis trompé, Pierre Nicole n'est pas pasteur à Chauny, mais à La Fère. C'est ainsi que Pierre Nicole, donc accompagné de Glasscott à Rouen en novembre 1931 pour lancer le mouvement sur la grande métropole normande. Et là, ça aussi était un succès extraordinaire. Le ministère de guérison de Glasscott attirait véritablement les foules. Et Glasscott était un homme capable, par exemple, de faire ce que je vais rappeler tout de suite. Là, un jour, il était avec Pierre Nicole en voiture, n'est-ce pas, en Rouen. Soudain, il dit à Pierre Nicole, arrêtez-vous. Il était comme ça, Glasscott. Hein. Alors il descend, il interpelle un passant là. Dis donc, monsieur, là, venez un peu ici. Vous êtes malade, vous, hein? Oui. Vous avez ceci, cela? Ben oui, dit l'autre, mais qui êtes-vous? Vous avez ceci, cela. Bon, mettez-vous à genoux, là. Je vais prier pour vous, vous allez être guéri. Mais vous êtes fou. Mettez-vous à genoux. Et puis alors, Glasscott, il met ses mains sur ses épaules, et puis d'autorité, il le fait mettre à genoux sur le trottoir, devant tout le monde. Hein. Il commence à prier, Seigneur, guéris cet homme, bénis-le. Le gars est instantanément béni. Il dit, bon, vous serez ce soir à la réunion, et vous témoignerez de ce qui s'est passé. Et le malade était le soir à la réunion. Et vous pensez bien qu'une publicité comme ça, bien, ça marquait. Hein, ça marquait. C'était comme ça. Hein, c'était comme ça avec Glasscott à cette époque-là. Alors donc, ici, la première réunion à Rouen, il y avait 9 personnes. C'était pas la foule. 10 mois après, il y avait 75 baptisés. Et puis en 1932, donc il y avait une église florissante. L'église de Rouen a eu une grande influence sur tous les environs. Pierre Nicole avait 2 fils, Marc et André, qui se sont levés également pour le ministère et qui ont secondé leur père, d'abord à Rouen, puis ensuite dans les annexes que Pierre Nicole a ouvert dans les environs de Rouen. Malheureusement, un drame terrible s'est produit. Marc Nicole, qui était un homme qui avait une grande envergure, qui avait certainement l'étoffe de son père, s'est tué un jour bêtement dans un accident en tombant d'un arbre qu'il était en train de tailler, il est mort. C'était un drame, une tragédie, ces tragédies incompréhensibles qui se produisent parfois. Par contre, André Nicole est devenu donc pasteur de l'église de Dieppe en 1933. L'église de Dieppe qui a connu des moments difficiles. La première tentative d'évangéliser Dieppe s'est soldée par un échec retentissant. Et puis, il y a eu ensuite quelques guérisons qui ont été attestées par le corps médical. Et à partir de là, il y a eu une croissance extrêmement rapide. Donc André Nicole retournera quelques mois plus tard à Dieppe, cette fois-ci comme pasteur. Et c'est alors que l'équipe de Glasscott décide d'attaquer Paris. En janvier 1933, Christophe Domoutchef arrive à Paris. Et là, il va commencer donc une œuvre dans la rue de la Cour des Noues, œuvre qui existe encore jusqu'à nos jours d'ailleurs. Et puis en même temps, l'équipe s'intéresse à la Belgique. À la Belgique, puisqu'on est quand même dans le nord de la France, tout près de la frontière belge. Et déjà, le message de Pentecôte a franchi la frontière. Il a franchi la frontière précisément à partir des églises baptistes qui en ont été touchées. Et notamment, c'est le cas à Gemap, c'est-à-dire dans le Borinage, exactement de l'autre côté de la frontière française. Et notamment, le pasteur de Worms, qui était un pasteur protestant en Belgique, s'ouvre au message de Pentecôte et invite Glasscott dans les églises protestantes de Belgique, de type évangélique baptiste. Et c'est ainsi que Glasscott prêche en 1933 à Gemap, à Charleroi, à Pâturage, où il fait salle comble, absolument comble. La même année, il se rend en Suisse, à Genève, et l'année suivante, à Zurich et à Berne, donc en Suisse alémanique, puis à La Chaux-de-Fonds, toujours en Suisse, à la demande d'ailleurs de l'Église réformée de Suisse. C'est là que, en Suisse, que Glasscott rencontre un pasteur baptiste, qui n'appartient pas d'ailleurs à la Fédération baptiste, mais à l'Association baptiste. Il faut dire que dans ces années-là, le mouvement baptiste français s'est scindé en deux. Il y a eu une scission. Il y a eu une scission qui est due au fait que les Vincent, donc, qui étaient une des grandes dynasties de baptistes, se sont mis à adopter un certain nombre de thèses libérales. Le libéralisme à ce moment-là était très, très important. On a vu la dernière fois qu'au niveau de l'Église réformée, il avait amené à une scission. Eh bien, il y aura le même résultat au niveau des baptistes. Et les églises baptistes du Nord resteront groupées autour de Philémon Vincent, puis de son fils Henri Vincent en particulier, et formeront la Fédération des églises baptistes de France, qui existe encore aujourd'hui. Tandis que la minorité qui se scindra, qui se séparera pour rester fidèle à l'orthodoxie biblique, si vous voulez, formera ce qu'on appelle l'Association des Églises baptistes. Et l'Association des Églises baptistes, qui existe encore aussi aujourd'hui, est essentiellement concentrée dans le sud de la France, Bordeaux, Toulouse, la région Provence-Côte d'Azur, etc. Parmi les pasteurs de l'Association baptiste du sud de la France, proche de la frontière belge, se trouvait précisément un pasteur qui se nommait André Thomas Bresse. Il était également secrétaire de la Ligue pour le Réveil, la Ligue française pour le Réveil. Et lui aussi était un homme qui était très ouvert au Réveil. C'était l'époque aussi où il y avait en Suisse, à Neuchâtel en particulier, un pasteur de Rougemont, Fritz de Rougemont, qui avait d'abord été pasteur à l'Église réformée, puis avait créé une œuvre de type un peu évangélique. Et c'était l'époque où le réveil du Pays de Galles faisait parler de lui dans toute l'Europe, puis ensuite le réveil de Pentecôte en Angleterre. Et dans ces années-là, un jour, Fritz de Rougemont, qui priait, cherchait le Seigneur, a interpellé sa femme, disant, voilà, le Seigneur a mis une chose à cœur, tu vas aller en Angleterre et tu nous ramènes George Jeffreys. Le Seigneur m'a montré qu'il fallait que George Jeffreys vienne prêcher en Suisse, alors tu me le ramènes manu militari. C'était comme ça à cette époque-là. Madame de Rougemont ignorait un traître mot d'anglais. Elle n'était jamais sortie de Suisse, jamais sortie de chez elle. Elle a pris le train, le bateau, elle est allée en Angleterre, elle a ramené dans ses bagages George Jeffreys. Et ça a été le début du réveil en Suisse, à Neuchâtel d'abord. Et Fritz de Rougemont, à la suite du message de George Jeffreys, qui a prêché ensuite en Suisse alémanique, plus en Suisse romande, a décidé de faire revenir à plusieurs reprises donc George Jeffreys. Parmi ceux qui se sont convertis aussi sous l'influence de George Jeffreys se trouvait pasteur qui a créé l'église de réveil de Genève. Mince, personne ne se souvient de son nom, ça, tout de suite, ça m'échappe. Ça me reviendra. Donc, un pasteur qui a créé une église de réveil à Genève, et Fritz de Rougemont, avec un ancien qui n'était pas pasteur, qui s'appelait M. Ruchon, a décidé de rassembler les pasteurs autour de George Jeffreys, du message de George Jeffreys, et ensuite des gens qui étaient dans le réveil, c'est-à-dire de Thomas Roberts et de Douglas Scott, pour que le réveil vienne parmi les églises protestantes de Suisse. La première rencontre de ce type a eu lieu donc au Mont Pèlerin, à côté de Vevey, et là, le succès a été zéro. Ça a été l'échec total. Les pasteurs se désintéressaient totalement du réveil. Alors, il en fallait plus pour doucher l'enthousiasme des premiers pentecôtistes, qu'à cela ne tienne, les pasteurs ne s'intéressaient pas au réveil, eh bien, on irait vers les chrétiens. Et c'est ainsi que l'année suivante, on a ouvert une retraite spirituelle d'une semaine pour tous les chrétiens de toutes les églises qui le désiraient au Mont Pèlerin. Et on appelait ça l'Union romande pour le réveil. Et alors que, avec les pasteurs, ça avait été l'échec, pour ce qui est des chrétiens, ça a été le succès. Sont venus ensuite, dans ces retraites, invités par Fritz de Rougemont et son collègue Ruchon, des gens comme Donald G., Émile Dallière. Puis nous avons des pasteurs français qui avaient été touchés par le réveil des brigadiers de la Drôme. Puis, quelques années plus tard, un miracle s'est produit. Le directeur d'un grand hôtel qui se trouvait à côté du Mont Pèlerin, quelques kilomètres du Mont Pèlerin, à Territet, grand hôtel des Alpes, a été miraculeusement guéri plutôt son fils, qui était à la mort, a été miraculeusement guéri par un des pasteurs pentecôtistes qui avait été appelé pour prêcher pour lui. Cet homme a tellement été reconnaissant, il s'est converti, bien sûr, était tellement reconnaissant que le Seigneur avait ainsi guéri miraculeusement son fils qui était condamné, qu'il a décidé de mettre son hôtel, son grand hôtel des Alpes, à la disposition de l'Union romande pour le réveil, pour leur convention annuelle. Et c'est ainsi que jusqu'en 1969, c'est en 1969 qu'a eu lieu la dernière convention de l'Union pour le réveil, cet hôtel, enfin les dernières années plutôt, c'était jusqu'en 67, vraiment les bonnes, 66-67, que l'hôtel des Alpes a été l'endroit donc où s'est rassemblée la fameuse convention dite de Territée, n'est-ce pas, où se rassemblaient des gens de toutes dénominations. Et la vision justement de Frise de Rougemont était un petit peu différente de celle de Scott, encore que celle de Scott était presque voisine. C'était que le réveil devait venir dans les églises. Et à l'inverse de Scott, qui invitait les gens à quitter leurs églises pour rejoindre le mouvement qui avait été créé, le mouvement des Assemblées de Dieu, Frise de Rougemont demander aux gens de rester dans leurs églises et d'amener le feu dans leurs églises respectives. Il y avait simplement le lien, c'était la convention annuelle qui durait une semaine pleine, 8 jours, du dimanche au dimanche, puis un bulletin de liaison qui s'appelait le trait d'union, qui donnait donc des nouvelles du réveil, qui donnait des comptes rendus des conventions, et puis qui faisait les liens entre tous ceux qui, pasteurs ou laïcs, étaient intéressés justement par la question du réveil. Et c'est ainsi que le réveil en Suisse a eu une portée un petit peu différente de ce qu'elle a eu en France, parce qu'il y a eu d'une part des mouvements de réveil qui ont créé des églises libres, comme on les appelle encore en Suisse d'ailleurs, et puis il y a eu aussi dans les églises officielles un certain nombre d'églises qui ont été gagnées par le réveil, dont justement les églises autour desquelles se trouvaient, qui se trouvent autour de Frise de Rougemont, qui ensuite, lui, était devenu aussi pasteur d'une église libre. Il avait quitté l'église réformée. Je crois qu'à la fin de sa vie, si ma mémoire est bonne, il a dû retourner dans l'église réformée, mais enfin, il a une grande partie de son ministère a eu lieu dans une église libre. Et les conventions d'Union romande pour le réveil se sont ouvertes aussi pour des gens qui venaient d'au-delà de la Suisse, la France, et aussi de la Belgique. Le pasteur Worms en particulier, les baptistes du nord de la France y participaient également. Dans l'Ardèche, où on en était encore, où on vivait encore le réveil des brigadiers, un certain nombre de pasteurs se sont ouverts au réveil. On a vu comment précisément il y avait eu des conflits entre la brigade et Douglas Scott, ce qui a été d'ailleurs le coup mortel qui a été porté, que la brigade s'est portée à elle-même. Mais un certain nombre de pasteurs réformés se sont ouverts au réveil. C'est le cas du pasteur Delattre, qui était pasteur à Privas, et qui avait organisé une rencontre entre Douglas Scott et les professeurs de théologie de la faculté de Montpellier, parmi lesquels se trouvaient deux jeunes pasteurs, les deux frères d'Allière. Et bon, la rencontre de Montpellier, un petit peu comme celle qui avait eu lieu avec la brigade, c'est pas tellement bien passé. Il est certain que Douglas Scott avait de très nombreuses qualités, il avait des solides défauts, et un de ses principaux défauts, c'est qu'il n'était pas très diplomate. Et notamment auprès des pasteurs qui étaient des théologiens, etc. Ils ne savaient pas toujours très très bien s'y prendre. Je me souviens d'avoir eu les confidences de ceux qui avaient participé à cette fameuse rencontre, qui était pasteur Héberroux, qui a ensuite été observateur au Concile en 1963-1966. Héberroux nous racontait comment la chose avait mal tourné, essentiellement par les maladresses de Scott. Bon, il faut dire qu'aussi à cette époque-là, Scott ne parlait pas très bien le français, il ne comprenait pas toujours très bien ce que les autres disaient, surtout les subtilités théologiques lui échappaient pas mal. Alors bon, ça a été un véritable dialogue de sourds. Et il y a eu donc ici une rupture entre l'Église réformée de France et puis le mouvement de Pentecôte. Les synodes qui ont suivi ont mis à l'ordre du jour des travaux du synode la question du mouvement de Pentecôte, et les brigadiers notamment ont fait basculer les synodes contre le mouvement de Pentecôte. Mais dans l'Église réformée de France, cette fois-ci, il y a eu un certain nombre de pasteurs qui, malgré tout, ont adopté le message de Scott, et c'était le cas notamment de Louis Dallière, qui, son frère c'était Émile, son nom me revient, Émile Dallière. Les deux frères Dallière sont entrés à fond dans le message de la Pentecôte. Mais leur but, comme Frise de Rougemont, avec lequel ils étaient en contact, ils n'ont pas voulu quitter l'Église réformée. Se trouvaient également un certain nombre de pasteurs de l'Ardèche, notamment Arnold de Brémond, et d'autres encore, qui étaient en relation aussi avec les pasteurs belges autour de Worms. Et ces gens-là ont décidé de faire tout leur possible pour rester dans l'Église réformée, tout en maintenant, évidemment, la doctrine du réveil et ce qu'ils avaient vécu. Et alors, des tractations nombreuses ont eu lieu entre ce qu'on appelait déjà le groupe de charme, c'est-à-dire les pasteurs qui étaient autour de Louis Dallière étant le porte-parole du mouvement, et il était pasteur à Charme, dans l'Ardèche, une petite paroisse de l'Ardèche, d'où le nom de groupe de charme qu'il a gardé jusqu'à nos jours d'ailleurs, c'est quelque chose qui existe encore, pour essayer de trouver un modus vivendi. À plusieurs reprises, on a été au bord de la rupture, mais la ténacité de Louis Dallière, sa diplomatie, ont fait que petit à petit, on s'est acheminé vers un apaisement. Ce qui faisait problème, d'ailleurs, beaucoup plus que le baptême dans le Saint-Esprit et les dons spirituels pour les autorités de l'Église réformée de France, c'était plus la question du baptême des adultes, qui remettait en question donc le baptême des enfants. Et finalement, les gens de charme, le groupe de charme, a pu rester dans l'Église réformée à condition de faire un compromis qui est éminemment discutable, mais enfin, qui est ce qu'ils ont cru devoir faire, du moins, et qui était de reconnaître la validité du baptême des enfants à côté du baptême des adultes. Et alors, ce qui faisait encore plus problème que la non-reconnaissance du baptême des enfants, c'était ce que les autorités de l'Église réformée appelaient le rebaptême, car Louis Dallière, comme Douglas Scott, comme tous les pentecôtistes, invitait les réformés qui avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit de se faire également baptiser par immersion. Alors c'était le gros problème. Donc ça veut dire que vous niez la validité du baptême des enfants. Oui, absolument. Le baptême des enfants n'est pas un baptême. Alors, nous sommes des païens, enfin, vous voyez, bon. Alors là, ça a été à deux doigts de la rupture. Et finalement, les gens de charme ont dû reconnaître la validité du baptême des enfants. Et de son côté, l'Église réformée a accepté qu'ils n'ont pas rebaptisé les adultes, parce qu'on ne peut pas être baptisé. Si le baptême des enfants est un véritable baptême, on ne doit pas rebaptiser dans l'eau des gens qui ont été baptisés enfants. Alors, il a été décidé que le baptême des adultes était une confirmation du baptême de l'enfant. Et la formule qui est employée encore aujourd'hui dans le groupe de charme pour des gens qui ont été baptisés enfants, c'est celui-ci: je te confirme, je sais plus exactement, enfin quelque chose, je te confirme dans ton baptême d'enfant, quelque chose comme ça, enfin le baptême que tu as reçu, je confirme le baptême que tu as reçu. Bon, c'est un compromis extrêmement boiteux, hein, extrêmement discutable. Et quand nous avons eu, dans les années 70, dans le cadre du mouvement charismatique, des discussions avec les gens de charme, nous nous sommes heurtés à eux, justement, sur cette question-là, en disant que nous étions en désaccord avec eux sur cette doctrine anti-biblique et non-biblique de la confirmation du baptême d'enfants. Mais enfin, bon, jusqu'à aujourd'hui, ils maintiennent leur point de vue, et d'ailleurs, c'est une des raisons qui a fait qu'on s'est séparés d'eux également. Donc, le groupe de charme a pris son essor. En 1931, donc, Émile Dallière, le frère de Louis, et le pasteur de Worms de Charleroi, ont créé un journal qui s'appelait « Esprit et vie », et qui était une voix en faveur du réveil, une voix mensuelle en faveur du réveil, disait le sous-titre. Outre la brigade qui avait pris position contre le pentecôtisme, il y a un autre personnage qui a fait un tort considérable au réveil de Pentecôte dans ces années-là. C'est le pasteur Alexander, qui, avec une sévérité néanmoins moins grande que la brigade, qui allait jusqu'à dire que le pentecôtisme était l'esprit de l'Antichrist, ça allait loin quand même, hein. Alexander disait que le pentecôtisme est incompatible avec le véritable christianisme et que le pentecôtisme était une secte, au même titre que les témoins de Jéhovah. Il avait écrit un petit pamphlet venimeux qui était intitulé « Pentecôtisme ou christianisme ». En 1932, l'Église réformée a convoqué un synode extraordinaire qui rassemblait 190 pasteurs pour discuter de la question du pentecôtisme. Louis Dallière et le pasteur de Worms de Belgique sont venus s'expliquer devant ce synode extraordinaire. Et c'est là donc ensuite le synode a décidé d'envoyer un certain nombre de représentants en Grande-Bretagne pour étudier le mouvement. Et là, on est resté dans un entre-deux pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'une décision soit prise, à savoir que le pentecôtisme officiel était répudié, mais que les gens qui autour de Louis Dallière acceptaient la doctrine de la reconfirmation du baptême des adultes pouvaient rester dans l'Église réformée et étaient des gens relativement fréquentables. Mais il est évident que le groupe de charme, pour pouvoir subsister dans l'Église réformée, se devait d'être extrêmement discret, ce qu'il est resté jusqu'à nos jours d'ailleurs. Et c'est à partir de 1934 que Douglas Scott a décidé d'évangéliser, après avoir évangélisé le Nord, a décidé d'évangéliser le Sud de la France. Son premier objectif était Marseille. Là, il a mis le paquet, comme on dit familièrement. Il a fait imprimer 100 000 tracts qu'avec ses collaborateurs, il a distribués. Ces 100 000 tracts ont ramené une foule nombreuse de 25 personnes. Mais qu'à cela ne tienne, en quelques semaines, il avait deux salles combles à Marseille. Il a donc là pu compter sur Dallière n'avait pas quitté l'Église réformée, était néanmoins d'accord pour lui tendre la main dans l'évangélisation du sud de la France. Dans le sud de la France, il a commencé donc à former 5 ou 6 jeunes dans le but de les mettre dans le ministère. Alors, l'école de Douglas Scott était une école à la dure, tant vous dire. Alors, les jeunes gens l'accompagnaient dans ses visites, distribuaient leur travail essentiel, c'était de distribuer les prospectus et les tracts. André Nicole fut le premier, justement, de ces jeunes formés par Douglas Scott. Si bien qu'entre 1935 et 1937, Douglas Scott s'est mis essentiellement à évangéliser toute la Côte d'Azur, entre Nice et l'extrémité, Montpellier, etc. Alors, ont été créées des églises à Nice, à Avignon, Arles, Orange, Cavaillon, Salon de Provence, Toulon, Cannes, Grasse, Antibes et Menton. C'était donc là un succès extraordinaire. Au printemps 1935, il est retourné en Belgique, en Suisse d'abord, puis en Belgique, et enfin dans le nord de la France. C'est en 1932 qu'il a compris que son rêve d'amener les églises historiques à se tourner vers la Pentecôte était vain. Et alors il a eu un slogan, comme il a aimé en avoir, « On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres ». Ça veut dire que pour lui, il considérait les églises historiques comme des vieilles outres. Et c'est là donc qu'il a décidé de créer un nouveau mouvement. Au moment où le synode, ce fameux synode de l'ERF de 1932, nous avons vu, avait pris ses distances avec le pentecôtisme. Il constatait qu'en effet, de nombreux temples lui étaient désormais fermés, alors qu'ils lui étaient ouverts. Et c'est alors que le pasteur André Thomas Bresse a décidé de le rejoindre, comme l'avait fait quelques années auparavant Pierre Nicole. Et c'est ainsi que Thomas Bresse a été pour le sud de la France ce que Pierre Nicole a été pour le nord. Thomas Bresse aussi était un pasteur baptiste, donc quelqu'un qui avait une solide formation théologique, qui était aussi un homme d'expérience, il était plus jeune que Pierre Nicole, mais il était quand même, c'était plus un jeuneau. Et André Thomas Bresse est devenu pasteur de l'église de Nice. et il a eu un rôle un peu, pourrait-on dire, d'évêque à partir de Nice sur toutes les églises du Sud, un peu comme depuis Rouen, Pierre Nicole l'avait sur les églises de Normandie. Et c'est alors que, sous la direction de ces trois hommes, c'est-à-dire le pasteur Galis, Pierre Nicole et André Thomas Bresse, a été créé donc en 1932 le mouvement des Assemblées de Dieu de France. Donc des nouvelles outres pour mettre du vin nouveau. Douglas Scott n'en fera jamais partie officiellement. Il en est le fondateur pratiquement, mais il n'en fait pas partie parce qu'il faisait partie d'un mouvement britannique. La première convention du nouveau mouvement a lieu au Havre du 11 au 14 février 1932. Les assemblées de Dieu s'organisent à la manière justement des assemblées de Dieu britanniques, c'est-à-dire dans le cadre de l'autonomie totale de l'Église locale, mais avec un lien spirituel qui est représenté essentiellement par les conventions annuelles qui rassemblent les pasteurs, où on discute des problèmes théologiques, des problèmes pastoraux, des problèmes de stratégie qui se présentent au nouveau mouvement. Mais Pierre Nicole, qui lui venait des églises baptistes qui étaient fédérées, décide de créer pour le Nord, pour la Normandie, une fédération dont il sera le président. La convention décide deux choses. La première convention décide deux choses. Premièrement, publier un texte qui porte le nom de « Vérité fondamentale des assemblées de Dieu », c'est-à-dire une déclaration de foi. Déclaration de foi qui existe encore de nos jours, à peu près, d'ailleurs à peu de choses près, dans les mêmes termes que celle qui a été élaborée par Douglas Scott et ses collaborateurs en 1932. Puis on édite un journal qui porte le nom de « Viens et vois », de l'expression qu'on trouve dans l'Évangile, viens et vois, c'est-à-dire viens et vois essentiellement les miracles. Donc entre 1932 et 1939, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'éclate la Seconde Guerre mondiale, il y aura deux conventions par an qui rassemblent tous les pasteurs de la France. À cette époque-là, c'est pas énorme, et qui vont au fil des années se pencher sur un certain nombre de problèmes pratiques qui vont se poser au nouveau mouvement. C'est ainsi qu'en 1933, on va débattre de la question du baptême. Baptême des enfants ou baptême des adultes. On tranche évidemment pour le baptême des adultes, ce qui n'est pas étonnant dans la mesure où des gens comme Pierre Nicole et André Thomas Bresse étaient eux-mêmes d'anciens pasteurs baptistes. On parle aussi du ministère féminin, question fort controversée à cette période-là déjà, et on tranche contre, n'est-ce pas ? La femme ne peut pas prêcher. La deuxième convention d'automne en 1933 va traiter de la question de la chevelure. La femme peut-elle ou non se couper les cheveux ? On tranche évidemment par le non. Et c'est dans cette première convention qu'intervient Donald G. Donald G. Est invité pour donner son avis justement sur ce genre de questions. À côté de la question justement de la tenue de la femme dans les assemblées, il y a une autre question qui sera traitée dans cette convention de 1933, c'est la question de la présence réelle dans la scène. Et on prend la position classique en milieu évangélique et protestant d'une présence symbolique du Seigneur dans la scène. En 1934, la convention a lieu à Calais et se penche sur la question du parler en langue comme signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Doctrine qui va être adoptée officiellement par les Assemblées de Dieu de France et qui va entrer justement dans les vérités fondamentales des Assemblées de Dieu. Il faut dire que malgré le fait que d'année en année, on constate une progression impressionnante du mouvement, création de nouvelles assemblées, accroissement des assemblées déjà existantes, le fait que la France soit composé d'une majorité de catholiques, apparaît très vite quand même comme étant un frein sérieux au mouvement. Et ce qui s'est passé au Havre au début ne se reproduit pas partout. Les oukases et les interdictions qui tombent du haut des chaires catholiques a parfois un effet très négatif sur la progression du mouvement. Et dans ces années-là, on commence à s'en rendre compte. En 1936, a lieu une des plus grandes conventions de l'avant-guerre, qui est présidée aussi par Donald J. Il y a 100 participants, voyez-vous, c'est énorme pour l'époque. En 1937, les deux conventions ont lieu successivement au Havre, puis à Rouen, sous la présidence de George Jeffreys. C'est George Jeffreys qui, cette fois-ci, est l'orateur principal de la convention. La convention suivante a lieu à Marseille, et là, on décide de la création d'un comité missionnaire. Le mouvement français, qui est pourtant un mouvement embryonnaire, qui est lui-même encore un mouvement largement missionnaire, adopte déjà la vision de l'évangélisation ce qui est alors un ensemble de colonies françaises. Puis on décide également du mode de formation des futurs pasteurs. Et c'est ainsi qu'il est décidé qu'on rejette la notion d'une école biblique, mais par contre que les pasteurs sont formés avec des frères anciens dans un stage qui doit durer au moins 3 ans. Après 3 ans, le pasteur qui a eu le stagiaire sous sa responsabilité le présente à la convention et la convention le reconnaît officiellement comme pasteur. C'est à peu près toujours le mode de formation aujourd'hui au sein des assemblées de Dieu. C'est aussi l'époque où un peu partout en France, là où il y a une minorité communiste importante, les pentecôtistes sont vraiment gênés par le communisme. Et là, donc, les communistes interviennent manu militari bien souvent et des pasteurs sont tabassés, reçoivent des orions, des coups, des injures, on casse les salles, on empêche les gens d'entrer dans les salles, il y a un cordon de communistes à l'entrée de la salle à l'heure de la réunion pour empêcher les gens d'entrer, etc. On est vraiment dans une situation extrêmement tendue à cette période-là. C'est dans ce contexte-là qu'intervient le fameux procès du pasteur Lemaire, le pasteur Lemaire de Lisieux, qui est accusé par un médecin proche justement des communistes d'exercice illégal de la médecine, parce qu'il impose les mains aux malades. Et il y aura un procès retentissant, qui va d'ailleurs faire parler toute la France et la Navarre à cette période-là. Et à l'issue de ce procès, le pasteur Lemaire est condamné à 50 francs d'amende, ce qui est considérable à l'époque, et 1000 francs de dommages et intérêts. Alors, les pentecôtistes décident de faire appel. Notamment, on fait appel à la Fédération protestante de France qui joue le jeu. Et le jugement est débouté en appel. On considère que comme il n'y a pas eu d'acte médical, et que la prière ne peut pas être considérée comme un acte médical, et puis, bon, le malade a été guéri, ça aussi c'est quelque chose qui joue en faveur, évidemment, du pasteur Lemaire, tant et si bien que le jugement est cassé par la cour d'appel et le pasteur Lemaire est relaxé. Et ça fait jurisprudence jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas ? Parce que on considère, n'est-ce pas, que le fait de prier pour les malades n'est pas un exercice illégal de la médecine. Maintenant, l'Est de la France, à cette période-là, est délaissé. En Bretagne, les missions piétinent. Il y a eu quelques tentatives d'évangéliser la Bretagne, mais sans beaucoup de succès. La Bretagne est encore marquée fortement par le catholicisme à cette période-là, tant et si bien que le mouvement n'a pas de succès, véritablement, pour l'heure, en Bretagne. Par contre, dans le sud-est de la France, il va y avoir alors un grand succès dans des villes comme Lyon et Dijon, où d'importantes assemblées vont être ainsi créées. Et là, donc, il y a une situation qui va faire que, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, la France, mise à part l'Est, est à peu près évangélisée. Et c'est sur ces entrefaits que va éclater la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale va être évidemment un coup d'arrêt terrible à l'expansion du mouvement de Pentecôte en France. et Douglas Scott lui-même va devoir quitter la France puisqu'il est sujet britannique. Il reçoit d'ailleurs une prophétie dans ce sens, lui enjoignant de quitter la France au plus vite, alors que la guerre n'est même pas encore déclarée. Ça, on aura l'occasion de voir, si vous voulez, la prochaine fois. On va rester là pour ce soir. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?